les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Notre dossier en compagnie aujourd'hui de Sarah, bonjour.
Bonjour Alex.
Aujourd'hui tu nous parles de Boomtown, une série apparue sur les écrans de NBC en 2002. Très vite, la série rassemble les meilleures critiques. Certains disent qu'elle est révolutionnaire dans l'utilisation des différents points de vue. Créée par Graham Yost, elle met en scène des groupes de policiers, ambulanciers, procureurs et journalistes. Les premiers épisodes sont très suivis, les choses se gâtent pour la fin de la saison et le début de la suivante. La série avait tout pour plaire, un casting digne du cinéma, des scénarios costauds et une esthétique très personnelle. Alors Sarah, que s'est-il passé ?
Eh bien, plein de choses, mais ça je pense que je vous en parlerai plutôt en fin d'émission et qu'il vaut mieux repréciser un peu quelle est cette série. Je suis pas sûre que tout le monde l'ait vue. Alors quand on lit le résumé, on lit que ce sont des flics en civil et des flics en uniforme et qui enquêtent sur des meurtres passionnels, la délinquance juvénile ou des prises d'otages. Bref, rien de vraiment très très neuf, sauf que de temps en temps, au détour d'un épisode, on tombe parfois sur des perles. Et je vais pas vous faire tout le guide ici, mais prendre peut-être 2-3 exemples qui vont vous faire comprendre que cette série sort un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, justement, l'épisode Smith & Wesson, dans la première saison, on y voit un braquage qui tourne mal, les voleurs prennent les employés du magasin en otage, mais le gérant est un ancien acteur de série, qui a joué d'ailleurs dans une série policière et qui a donné la vocation à Ray, qui est l'un des policiers qu'on suit généralement dans la série. Alors vous imaginez évidemment que Ray va un petit peu casser son rêve de policier idéal qu'il avait vu dans la série quand il était jeune, parce que Les, l'acteur, est beaucoup moins héroïque que le personnage. Mais ce qui est gai, c'est que Les Van Buren est joué par Joe Penny. Alors vos yeux en forme de point d'interrogation ne m'étonnent pas vraiment, parce qu'il est quand même moins connu que David Saul, mais Joe Penny, c'est le brun qui jouait dans Riptide. Riptide, c'était une série de détectives privés dont le QG était dans un bateau. Alors je sais, ça fait pas tout à fait image pour tout le monde, mais si vous allez faire un tour sur internet et si vous faites une recherche, vous allez faire « Ah ouais !» Parce qu'on a tous vu Riptide quand on était petit, qu'on avait que ça à faire.
Série qui était d'ailleurs très proche de la série dans laquelle il est censé jouer dans Boomtown.
Effectivement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Smith & Wesson est donc la série qui était imaginée par Boomtown est tout à fait aussi nulle que Riptide ne l'était à l'époque, tout aussi cliché, très manichéenne, etc. Et puis surtout, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir les droits, mais ils ont eu l'autorisation d'utiliser des images et des images du générique de Riptide. Ce qui donne un effet déjà vu quand on regarde ça, on se dit « mais je connais ça », sans tout à fait pouvoir mettre un nom sur le truc, mais c'est très intéressant. Bref, dans cet épisode, on se retrouve entre passé héroïque et présent plutôt pathétique, réalité et fiction évidemment, puisque c'est une série qui nous parle d'une série policière, avec un acteur qui lui-même a été un grand acteur de grandes séries autrefois, mais qui est aussi un has-been, donc c'est assez bizarre. D'ailleurs, je me demande comment il a osé jouer son propre rôle là-dedans. Enfin bref, c'est assez piquant. Il faut savoir que dans cette série, j'aime aussi beaucoup le traitement des personnages, au-delà parfois des épisodes qui sortent de l'ordinaire, parce qu'ils sont généralement repris tout à fait à brousse-poil. Alors bien sûr, on a le boy scout de service, Joel Steven, qui est l'un des héros, je vais dire. Mais il y a aussi le flic vendu à la mafia locale, qui envoie ses collègues se faire tuer sur le terrain. Il y a le bœuf carotte, donc c'est le connard qui enquête sur ses collègues, qui aime tellement son métier que ça en vient carrément à vomir, qui cherche la petite bête. Il y a celui qu'on soupçonne d'être un ripou qui en a marre, mais qui en même temps, on joue beaucoup. Il y a la nouvelle recrue qui est tellement zélée qu'elle risque de briser pas mal de réputation sur son chemin. Donc vous voyez, ce sont des personnages dont on n'a pas nécessairement l'habitude, du moins pas sous cet angle-là. Alors au niveau privé, là aussi, on n'a pas vraiment droit aux enfants et aux poissons rouges, mais plutôt à des choses très lourdes comme le suicide, l'abus sexuel vécu dans l'enfance dont on ne se sort pas, la culpabilité du soldat qui a survécu pendant la guerre alors que ses potes se sont fait tuer. Là aussi, évidemment, on n'est pas non plus devant la fête à la maison, par exemple.
Chaque personnage, finalement, a une faille.
Tous les personnages ont une faille, et généralement des failles qu'on ne voit pas ailleurs. Par exemple, David McNorris, qui est le personnage qu'on doit normalement détester, qui est jeune, riche, ambitieux, talentueux, implacable. C'est l'adjoint du procureur, et il a tout pour être heureux, le pouvoir, une carrière, une berline, une femme et une maîtresse, donc vraiment, il n'a pas à se plaindre. Et pourtant, lui dégringole dans l'alcoolisme parce qu'il se rend compte qu'il est un type aussi détestable que son père. Et surtout parce qu'un jour, il se réveille corrompu. Il a essayé d'étouffer une affaire d'un homme riche. Et je pense que c'est ça qui le fait dégringoler petit à petit. Ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à d'autres séries, par exemple, où l'alcoolisme est traité en un épisode, et oui, Brandon est alcoolique et l'épisode après, il l'est plus. Ici, ça nous prend toute la série et on montre l'alcool sous un jour qui n'est pas nécessairement des plus jolis. C'est pas fashion et c'est pas super sympa d'être alcoolique, quoi. Je vous propose justement d'écouter un petit extrait où on entend justement David McNorris qui est alors dans sa cure de désintoxication, mais qui va y revenir. C'est l'épisode retour de la seconde saison. Le psy lui demande comment allez-vous et vous allez entendre sa réponse. En fait, vous allez l'entendre deux fois parce que la première fois, c'est la réponse qu'il aurait aimé donner et où il décharge un peu tout ce qu'il a sur le cœur. Et puis vous entendrez à la fin de l'extrait la réponse qu'il donne pour du vrai.
David ? Présent, vous êtes sûr ? Est-il ? Vos 28 jours sont presque terminés.
Ah, déjà ?
Nous avons fait beaucoup de séances tous ensemble et partagé beaucoup d'émotions. Vous nous avez appris beaucoup de choses, mais nous ne savons rien sur vos sentiments.
Oh, mais les juristes n'ont pas d'état d'âme.
Belle esquive.
Merci.
Dites-nous ce que vous ressentez.
Ce que je ressens ?
Oui.
Là, en ce moment ?
En général, depuis que vous êtes avec nous.
J'éprouve de la colère. Ça vous convient ?
Pourquoi éprouvez-vous de la colère ?
Pourquoi j'éprouve de la colère ? Peut-être parce que je suis le dictionnaire ambulant des clichés. Un homme de loi corrompu, un pauvre mec séparé de sa femme, un homme politique sans cœur, un alcoolo, lequel vous prenez ? Peut-être parce que j'ai commencé à picoler à 8 ans quand mon père me filait des petites gorgées de bière le dimanche pendant les matchs qu'on regardait au salon. Et bien sûr, cette main qui m'avait servi tant de bière me tabassait quand je suis devenu ado parce que la nuit je rentrais tard et bourré. Mais... peut-être parce que je détestais que ma mère souffre à cause de moi. Lui se moquait complètement de la faire souffrir. Je suis en colère, peut-être parce que... on m'a élevé en me disant que les privilèges qu'avait mon père seraient les miens, comme le droit de se taper d'autres femmes parce qu'on nourrit sa famille, le droit de cogner un mec parce qu'il a fait un écart, le droit de biaiser la loi pour tes potes, oui, oh, et le meilleur pour la fin, le droit de se prendre une bonne biture juste avant de se mettre au volant d'une caisse. Quand ça a été mon tour, tous ces privilèges se sont envolés. Vous me demandez pourquoi je suis en colère ? Ça fait 28 jours que je moisis ici et je sais toujours pas ce que je veux à part un verre de whisky.
David ? David ? Vous allez nous répondre ?
Excusez... c'est quoi déjà la question ?
Comment vous sentez-vous ?
Détendu ? Ouais, je me sens détendu. Et vous ?
Pourquoi David répond deux fois ? Tout simplement parce que la première fois est rêvée. C'est une séquence de rêve éveillé. Alors vous êtes tous maintenant habitués à ça, depuis qu'on a tous vu Ally McBeal, évidemment, on a été élevés à ça. Mais il faut savoir que dans cet épisode-là, qui est l'épisode retour de la deuxième saison, il revoit plusieurs scènes plusieurs fois, parce qu'il les rêve avant, et ça démontre bien son combat contre l'alcool, en fait. Mais dans la série en général, on revoit parfois plusieurs scènes, ou plusieurs débuts de scènes, qui permettent de passer d'un personnage à l'autre. Donc c'est un procédé qui est habituel à cette série. Et justement, puisque je vous parle de comment cette série est faite dans la forme, on a souvent entendu dire que Boomtown privilégiait les différents points de vue des personnages. On est par exemple avec Joël et Fonceur, justement, sur la scène d'un crime, puis l'écran devient noir et le nom, par exemple, de Ray s'inscrit en toutes lettres et puis après on suit Ray. Et par exemple, dans le reste de l'épisode, on revient un moment à cette scène-là, on voit le nom Teresa et on repart de cette scène-là, qu'on a donc revue une deuxième fois, pour re-suivre Teresa. Autant dire que je ne vais pas vous faire une démonstration scientifique ici, je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet, mais je ne pense pas qu'il soit tout à fait question de point de vue des personnages dans cette série. Je l'explique sur le site internet, donc vous irez voir, mais ici je vais juste vous dire qu'en fait le narrateur me paraît omniscient, le bon vieux narrateur omniscient dont on nous a bassiné les oreilles pendant toutes nos années de lecture à l'école et au cinéma. Et tout simplement, je vous dirais que si on voit les rêves de David, ça veut dire que le narrateur est omniscient. Si on voyait que les points de vue des personnages, vous ne verriez pas ce qu'ils pensent. Souvenez-vous aussi par exemple des épisodes où Joël est amené à interroger ses collègues, il revoit ses souvenirs de choses qui sont passées avant. C'est le cas aussi de Tom quand il enquête sur l'actrice qui a disparu. Mais aussi, chaque fois qu'on a un témoignage, on voit ce que les gens pensent et on revit avec eux la scène dont ils parlent. Donc tout ça, ça montre bien que c'est un narrateur omniscient et non pas un point de vue personnage.
Au premier abord, ça a l'air quand même assez décousu. Les premiers épisodes qu'on va voir, on se demande un peu où on est, non ?
Effectivement, et je pense que tout ça vient justement de l'habileté de Boomtown comme de jouer avec plein de choses, et notamment les panneaux où les noms s'inscrivent. Parce que si vous les enlevez, finalement, vous vous retrouvez dans une série normale où on suit le personnage 1, puis le personnage 2, puis le personnage 3. Dans Dallas, on a ça déjà, hein, JR.
Sauf qu'ici, on voit la scène parfois jouer trois fois différemment, parce qu'on la voit par trois personnes différentes.
C'est l'originalité de la série, c'est de raccrocher certains pans de l'histoire à d'autres en rejouant des scènes. Mais je pense qu'ils sont obligés, parce que justement, il y a une telle rupture temporelle dans cette série, que s'ils ne font pas ça, à un moment, les gens s'y perdent. Donc les panneaux permettent déjà ça, permettent de dire, voilà, on revient à tel personnage, le téléspectateur le sait tout de suite, et ne doit pas se creuser la tête pendant 10 minutes en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on fout ici, etc. Et puis vous le savez, si c'est un nom qui n'est jamais apparu, par exemple, si vous n'avez pas le nom d'un des acteurs, vous savez que c'est probablement le méchant ou l'une des victimes. Donc très très vite, vous savez ce qui va intervenir, vous savez où vous devez replacer cet épisode-là. Et donc les ruptures temporelles, je le disais, les épisodes sont rarement chronologiques. Je pense qu'il y en a qu'un qui est vraiment chronologique et qui joue là-dessus, c'est l'épisode où David McNorris se retrouve dans une prison avec un condamné à mort qui a porté une menace. Le gang de ce condamné à mort a kidnappé un policier et menace de le tuer en même temps que l'exécution si l'autre n'est pas libéré. Évidemment, ça ne se fera pas, mais vous avez les heures qui se défilent, si vous voulez, comme dans 24 heures chrono, et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se faire, etc. Donc c'est le seul qui est chronologique, les autres commencent parfois par la fin. À ce propos, la séquence qui est avant le générique est généralement très intéressante. Parfois, elle étonne quand David dit que lui-même est mort, ou quand un cadavre atterrit dans un jacuzzi avec deux personnes qui vantaient les mérites de la ville de Los Angeles, par exemple. Parfois, il choque ou il intrigue, mais le but est toujours évidemment de titiller la curiosité. Et ensuite, on a une structure temporelle qui est complètement cassée et on a l'impression en fait que les scénaristes se sont assis devant l'histoire et qu'ils se sont dit « bon, on a ça ». On est là et on doit arriver là, mais comment est-ce qu'on le découpe? Comment est-ce qu'on bouscule toute la chronologie pour dévoiler tel élément à tel moment parce que ça va ménager le suspense? Et donc tout ça fait que Boomtown est donc une série qui paraît intéressante, d'autant qu'elle joue aussi avec tous les codes dont on a l'habitude. Elle s'adresse pas à nos parents, elle s'adresse à nous. Elle s'adresse à des gens qui ont grandi avec la télévision, donc elle ne prend plus son temps, par exemple, comme dans Derrick, à réexpliquer constamment ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire après. Les créateurs savent aussi que les gens ont vu Ally McBeal et qu'ils vont pas être totalement désarçonnés si on leur passe un rêve éveillé ou un fantasme sur l'écran pour revenir à la situation normale après. Ils ont vu 24 heures chrono, donc on sait comment on doit gérer un multi-écran, on sait ce qu'on doit regarder, etc. Et on a vu Profiler, on sait que si les scènes sont dans des teintes bleues, ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait dans la réalité. Donc Boomtown prend tout ça, mais elle part de ça et va un cran plus loin et mélange tout ça aussi avec cette temporalité qui est complètement folle.
Mais elle est parfois quand même relativement difficile d'accès parce que les différents moyens de construction sont parfois très différents justement d'un épisode à l'autre, ce qui ne facilite pas l'assiduité devant le programme.
Ça, c'est vrai. Il y a des épisodes qui sont de difficultés différentes suivant un épisode à l'autre, avec des épisodes qui ont aussi des histoires tout à fait différentes. Donc, généralement, la chronologie colle bien en type d'histoire, mais ça veut dire que une fois, vous avez quelque chose de tout à fait simple, une fois, vous avez quelque chose de très difficile, et que le téléspectateur doit s'adapter à chaque fois. D'un autre côté, pour les téléspectateurs qui aiment la télé bien faite, c'est une véritable richesse. En tout cas, dans la première saison. Je reviendrai peut-être sur la deuxième après. Quelque chose qui est intéressant aussi au niveau formel, c'est le générique. Parce que c'est pas du tout un générique de policier. Vous voyez, les génériques de policier, on doit voir des courses-poursuites, des fusils, etc. Ici, on voit les images de la naissance d'une ville. Ce sont des images de synthèse. Puis après, on a des images d'archives. Par exemple, John Kennedy, la révolte des habitants noirs, une voiture qui brûle, les incendies. Tout ça mêlé à des images très esthétiques sur les villes, les ponts, par exemple, les maisons. Ça nous donne un peu une idée d'une série qui mélange à la fois les flics qui sont en contact avec la rue, donc avec ces révoltes, avec les incendies, etc. Mais aussi de tout le pan juridique, puisque David McNorris n'est pas un flic, c'est un procureur. Et les procureurs aux États-Unis font de la politique et doivent être élus. Et donc on a aussi tout ce côté très esthétique de la magistrature. Évidemment, la justice et la droiture ne sont pas nécessairement au sein justement de la justice.
Et ensuite, ils se sont rués à l'intérieur.
Oui, ils ont renversé ma petite fille, elle a une lèvre en sang.
Elle se remet?
Oh, elle survivra. Mais elle est en larmes.
Combien ils étaient?
Trois.
Blanc, noir?
Ah, merde, saleté.
Faites attention.
Ils portaient des masques. De nos présidents, ils n'ont de respect pour rien, ces petits morveux.
Tout ce qu'ils vous ont pris, c'est une citrouille en plastique.
Vous trouvez que c'est rien? Cette belle citrouille nous a coûté au moins $30. Et elle s'allumait, c'est ma petite fille qui l'avait choisie.
Bon, d'accord, d'accord. Ce que mon collègue veut dire, c'est que Parce qu'ils vous ont volé autre chose. Peut-être de l'argent, une radio, une télé. Vous savez, ces petits voyous mettent la main sur tout ce qu'ils trouvent.
C'est déjà arrivé avant ?
Malheureusement, oui, monsieur. Ça arrive presque tous les ans. D'habitude, ils attendent la nuit.
Des salopards. La citrouille, c'est tout ce qu'ils m'ont pris. J'ai une arme dans ma table de nuit. Un calibre 22. Margie me fait mettre le camp de sécurité à cause des petits-enfants.
Oui, bonne idée.
Et vous, vous avez vu dans quoi ils sont partis ?
Une 4 portes couleur sombre. J'ai pas vu les plaques ni la main.
Très bien, monsieur. On vous remercie pour votre aide et vous pourriez peut-être rentrer. On va aller consigner tout ça et on verra.
Vous allez leur courir après, hein ? Vous n'enterrez pas cette histoire sous une pile de dossiers.
Non, monsieur, on va contacter notre service pour lui proposer un plan.
Voiture 5, la voiture 12, enquête terminée, nous retrouvons.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Une chasse à la citrouille, à mon avis. T'as jamais fait ça ?
Un flic respectueux de la loi comme moi ? Non, jamais. Surtout en plastique. Par contre, quand tu balances d'en haut une trentaine de belles citrouilles, ça fait un bruit dont tu te souviens.
Je vais faire semblant d'appeler le poste. Pendant ce temps-là, tu vas dire au revoir à l'inspecteur Harry, et puis on s'en va.
Quand tu dis on s'en va, tu veux dire qu'on quitte les lieux et qu'on se lance à la poursuite de ces dangereux voyous.
Appel à toutes les unités.
Ouais.
Il faut reconquérir la nuit.
Il fait encore jour.
Eh bien, on commence par le jour et puis ensuite la nuit.
Prêt. C'était juste une blague.
Ils ont fait tomber la petite par terre. Il se passera quoi dans la prochaine maison ? Peut-être que le gars n'aura pas de vieux calibre 22 planqué près de son lit. Peut-être qu'il prendra son bazooka préféré et qu'il fera un trou dans le dos du mec cette fois. Tout ça pour une citrouille en plastique.
Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse ?
Eh ben, on n'a qu'à faire un tour dans le quartier.
D'accord. Et c'est sûr qu'avec nos uniformes, on passera inaperçu.
On se mettra un déguisement.
Le casting puise dans deux viviers très intéressants. Et d'abord, et ce n'est pas pour me déplaire évidemment, Frères d'Armes.
Il y avait longtemps que tu nous en avais parlé. Tiens.
Je trouvais aussi. J'en avais un peu marre de ne plus en parler. Alors, c'est pas étonnant parce que Graham Yost, qui est le créateur, a lui-même travaillé sur Frères d'Armes. Il était scénariste sur la série et je pense même un des scénaristes principaux. D'autres des acteurs principaux, tiens d'ailleurs, reviennent de la bataille des Ardennes. C'est Neil McDonough qui joue David McNorris et Donnie Wahlberg qui joue Joel Stevens, ex-New Kid on the Block. Donc, je ne me lasse pas de le répéter.
Toute ton adolescence.
Absolument pas. En fait, si on ajoute Damien Lewis, qui était le héros de Frères d'Armes, on a carrément dans l'ordre décroissant les acteurs du petit écran que je trouve les plus sexy. Et ben oui, je trouvais que c'était important de le dire et on peut en discuter sur le forum si vous voulez. Bref, reste aussi que le salopard de service, donc le flic vendu à la mafia dont je vous parlais, sort lui aussi de Frères d'Armes. C'est John Hughes qui jouait l'un des héros pourtant, donc ça c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire de certains acteurs, je trouve. Le deuxième vivier, et là c'est peut-être beaucoup plus sérieux que ce que je viens de dire, ce sont les séries policières. Et les fans de Steven Bochco auront retrouvé avec, je suppose, un grand plaisir, Gary Bassaraba, qui était le Richard Santoro de Brooklyn Sauce, une superbe série que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue. Il faut savoir qu'avant de jouer dans Brooklyn Sauce, il était déjà abonné aux séries policières. Il a joué dans Miami Vice, New York District et New York Police d'État. Et donc, à mon avis, il ne quitte l'uniforme de flic que pour dormir et encore.
Mais c'est vrai qu'il est vraiment très typé flic américain. Il a vraiment le visage.
À moins qu'on ait l'impression que les flics américains sont tous comme lui, vu qu'on le voit partout dans les séries policières, ça, j'en sais rien. Fonceur est incarné, lui, par un acteur qui a un nom carrément ridicule, Michael T. Williamson. Enfin bon, soit.
Son nom dans la série ne l'est pas moins, quelque part.
Oh oui, quand même. Dans la version anglaise, c'est pas du tout fonceur, c'est rapide, je pense. Soit. Mais il a quand même joué dans Forrest Gump et dans Ali, donc la vie du boxeur aux côtés de Will Smith. Et ça force le respect, d'autant qu'avant ça, il avait quand même connu le capitaine Furio et Starsky et Hutch. Donc lui aussi, c'est un habitué des séries policières. Alors vous allez me dire, avec ces scénarios-là, avec ces originalités formelles-là et avec ces acteurs-là, pourquoi la série a-t-elle duré aussi peu de temps ?
J'allais te poser la question.
C'était une bonne question. Une saison donc de 18 épisodes et une saison de 6 épisodes, 24 en tout. J'ai lu sur des sites internet que c'était cette structure temporelle qui avait fait le succès de la première saison, mais qui était devenue ennuyante. Et j'ai trouvé ça assez suspect que certaines personnes pouvaient dire dans deux lignes de différence que c'est génial et puis que c'est nul, sans donner d'explication. Donc moi, je vais vous donner la mienne. À mon avis, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les scénaristes cassent le contrat qu'ils avaient passé avec le téléspectateur. D'abord, ils oublient de plus en plus souvent de mettre les panneaux avec les noms qui nous renseignent quel personnage on va suivre, ce qui est quand même un peu con vu que c'était quand même leur marque de fabrique. Et ensuite, on termine la première saison sur un épisode où le couple de Joël reprend un nouveau départ. On a Tom qui acquiert la confiance de ses collègues, David qui part en cure, et puis on se retrouve avec le premier épisode de la seconde saison Kelly, la femme de Joël, a complètement disparu et il recommence à penser, à fantasmer sur Teresa alors qu'il ne lui parlait plus et qu'il évitait la saison précédente. Il faut attendre 6 épisodes pour que Tom revienne sur le devant de la scène. Le combat final de David, je vous expliquais que son combat contre l'alcool durait toute la première saison, mais il est carrément évacué en un seul épisode dans la deuxième. Donc on se demande un petit peu ce qui se passe, d'autant que certains personnages ont carrément trahi. Teresa passe de l'ambulance à l'école de flic, alors qu'elle avait toujours dit que sa vie c'était sauver des vies. Andrea, la journaliste, disparaît, alors qu'à mon avis c'était un des personnages les plus intéressants de la série. On a aussi le Capitaine X qui disparaît, on a Kelly qui s'en va, et des personnages qui arrivent comme ça du jour au lendemain, qui sont mutés d'un commissariat à l'autre, comme Catherine Pierce, et qui devient du jour au lendemain le boss, sans qu'on nous ait expliqué pourquoi l'autre est parti.
On avait déjà l'impression d'une certaine érosion dans la deuxième partie de la première saison, puisqu'on voyait de plus en plus le boulot des flics, et de moins en moins, par exemple, le boulot des ambulanciers, qui était réduit à quasiment rien.
Effectivement, et c'est pour ça, à mon avis, qu'on ne voyait plus Teresa, parallèlement au fait que Joël essayait de l'éviter, vu que ça allait mieux avec sa femme. Mais les deux derniers épisodes de la première saison relèvent bien le niveau. Et je pense qu'effectivement, la série était déjà en difficulté à ce moment-là. Ils ont assez mal joué la carte de la deuxième saison, même s'il y a des épisodes super intéressants dans cette deuxième saison au niveau formel. Je pense notamment à celui où David revient, mais je pense aussi au dernier épisode, le sixième, où Tom fait une enquête sur une actrice qui a disparu et en fait elle est partie elle-même. Donc on a le jeu entre l'actrice qui se cache et les policiers qui la recherchent, ce qui est très intéressant. Mais bon, la série a mal joué la carte de la seconde saison et donc les téléspectateurs ont fui et on peut comprendre pourquoi.
Sarah, merci beaucoup.
Y a pas de quoi.
À la prochaine.
Ouais.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.